Mais la misère, elle est universelle, elle est présente absolument partout, elle est présente, même si on l'oublie parfois, dans les pays riches, dans les pays développés, elle est présente dans les pays pauvres. Je dirais que la misère, c'est cet état où, à la pauvreté, au manque de moyens, aux difficultés économiques que d'autres personnes peuvent rencontrer, s'ajoute ce que certains appellent l'exclusion, ce que d'autres, notamment les premiers concernés, les familles qui vivent dans cette situation, appellent la honte, c'est-à-dire le sentiment de ne compter pour personne, d'être ignoré, d'être considéré comme des gens de trop sur cette terre, donc de rester à l'écart de tous les projets de progrès social, de développement, etc. Et c'est d'ailleurs intéressant que cette année, le thème de la journée, choisi par les Nations Unies, c'est n'est durable qu'un développement qui soit un développement pour tous. Cette idée-là est très très importante. Il n'y a pas de progrès social, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de paix possible si on accepte que, à la marge, reste même une petite minorité de personnes, mais reste des gens exclus, reste des gens considérés comme des bouches à nourrir, mais sans plus.
Alors justement, que fait concrètement un Télécar Monde pour lutter contre cette misère?
Le mouvement fait beaucoup de choses. D'abord, l'accès à la culture. L'accès à la culture, ça veut dire la création d'une pré-école. On les crée aussi bien en France qu'en Haïti ou en Amérique latine ou en Afrique. Les bibliothèques de rue ou les bibliothèques dans les champs ou dans les mornes en Haïti, sur la décharge de la ville de Guatemala. Porter le livre aux enfants, porter la culture, porter la beauté. Deuxième chose, créer la vie associative, permettre aux habitants de tous les quartiers où nous travaillons, de se regrouper, de se mettre ensemble, de prendre conscience du poids qu'ils peuvent avoir s'ils se mettent ensemble, s'ils s'unissent, s'ils cherchent des alliances avec d'autres, s'ils connaissent leurs droits et prennent conscience de leurs droits, s'ils se battent pour obtenir qu'ils soient respectés, etc. Et donc, créer à travers cela une vie associative qui s'est concrétisée par des projets différents, comme la création en Europe des universités populaires du quart-monde, qui sont des lieux où des gens qui ont l'expérience de la misère, des hommes, des femmes qui ont l'expérience de la misère, peuvent se réunir avec leurs semblables, mais aussi avec d'autres, parce que l'objectif c'est d'entrer en dialogue avec les autres, c'est pas de rester entre soi, pour pouvoir trouver une issue à cette situation de misère dans laquelle ils sont souvent depuis plusieurs générations. Et la troisième chose, qui est là pratiquement depuis le début du mouvement aussi, c'est la conviction que l'action seule, sur le terrain, avec les plus pauvres, ne suffit pas. Et qu'il faut en même temps mener une action qu'on peut qualifier de politique au sens noble du terme, pas partisan bien entendu, mais une action politique. Le père Joseph résumait ça en une phrase, et en parlant des familles Noisy-le-Grand, il disait: je leur ferai monter les marches de l'ONU, de l'Élysée et du Vatican. Ça veut dire que j'irai porter la voix de ce peuple là où il n'est pas assez entendu, où il risque de ne pas être entendu.
Précisément aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez des politiques dans la lutte contre la misère?
La première chose que nous attendons et que nous considérons comme la chose la plus indispensable, c'est la reconnaissance qu'il n'y a pas de politique de lutte contre la misère qui vaille si les premiers concernés, les personnes qui vivent dans la misère, n'en deviennent pas des acteurs, des protagonistes, ne sont pas entendus, ne sont pas consultés, ne sont pas associés dès le début à la conception des projets, au diagnostic sur ce qui est vraiment indispensable, ce qu'on a vraiment besoin. Et ça, c'est le grand défi, parce que personne n'a l'habitude de ce partenariat authentique avec les plus pauvres. Tout le monde est dépourvu. Les plus pauvres n'ont pas l'habitude d'être partenaires des autres. Ils ont du mal parfois à dialoguer avec les autres, ils se méfient, ils ont peur. Ils ont peur des politiques, ils ont peur des experts, ils ont peur des universitaires, etc. Mais les universitaires, les experts, les politiques ont peur des pauvres tout autant. Donc il y a un chemin énorme à faire pour que puissent se rencontrer les différents acteurs. Mais il faut d'abord, au préalable, considérer que dans les acteurs, il y a ceux-là. S'ils ne sont pas là, nos politiques sont vouées à l'échec. Donc ça, c'est la première chose, la plus importante pour moi. S'il n'y a pas ça, tout le reste est vain d'une certaine façon. Ce que les gens attendent, c'est vraiment que leurs paroles, leurs pensées, parce que ce sont des êtres de pensée, comme tout être humain, soient prises en considération, soient prises en compte. Et c'est le sens de la journée, parce que la journée du refus de la misère, c'est d'abord une journée où on veut manifester ce qu'on pourrait appeler le protagonisme des plus pauvres. Ce sont les premiers à résister à la misère. Les premiers qui refusent la misère, ce sont les pauvres eux-mêmes, au-delà des apparences qui peuvent parfois donner l'impression de la résignation, de l'échec permanent, etc. Mais au-delà des apparences, profondément, les gens nous disent sans arrêt: mais je suis quand même pas un chien, je suis un homme.
Quels sont les enjeux de cette journée mondiale contre la misère?
Moi, je dirais que l'enjeu principal, c'est la vigilance, c'est de ne jamais baisser la garde malgré la crise. Nous sommes dans une situation de crise économique et politique et morale et culturelle extrêmement sérieuse, extrêmement grave, et la tentation existe face aux difficultés budgétaires que rencontrent les États, les collectivités locales, de renvoyer à plus tard le traitement de ces questions graves de la misère, de la grande pauvreté, en se concentrant sur la reprise de la croissance économique, etc. Et nous pensons que c'est un faux calcul. Donc tout ce qui, à travers une journée comme ça, permet de dire, mais non, la solution à la crise passe par la destruction de la misère. Tant qu'on n'a pas fait ça, on n'a rien fait. C'est ce que Victor Hugo disait à l'Assemblée nationale, où il a fait un fameux discours sur la misère en disant, tant que vous n'avez pas fait une loi pour détruire la misère, vous n'avez rien fait. Et Peggy disait exactement la même chose dans un petit texte qui s'appelle De Jean Coste, où il fait la distinction entre misère et pauvreté. Il dit, tant qu'un homme, même un seul homme, reste aux marges de la cité n'existe pas. Et donc je crois que ça, c'est bien qu'une journée comme ça existe pour rappeler cela. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre ça plus tard en disant, ben, on se réoccupera à nouveau de la pauvreté quand la prospérité sera de retour, quand l'économie sera repartie, quand les banques ceci, les banques cela, etc. Non, c'est comme si on construisait une maison sur des fondations instables. Nous pensons qu'il y a une pauvreté qui est à combattre et que nous appelons misère, et il y a une pauvreté qui est à rechercher, qui est une valeur, qui est la vie simple, la vie sobre. Et je pense que pour vraiment bâtir une société du refus de la misère, nous sommes tous appelés à redécouvrir la valeur prophétique de la pauvreté, au sens de la pauvreté choisie, et de la vie simple et sobre. Et là, ça me donne beaucoup d'espoir, parce que je sens que dans la jeunesse, ces idées-là font leur chemin.